Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 21e épisode de Popol. Et pour ce 21e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Laurie Brunet. Bonjour Laurie.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Très bien.
Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, Laurie, s'il te plaît?
Oui, donc moi je suis chargée de la dématérialisation des arrêtés municipaux de la ville de Lille et je les traite également, je les enregistre, je les envoie en préfecture et je suis maman de 2 enfants, donc Juliette, 2 ans et Raphaël, 6 ans.
Génial, merci beaucoup Laurie, ravie de te recevoir. Nous avons aussi avec nous Céline Calvez. Bonjour Céline.
Bonjour Léa, bonjour. Donc moi je suis Céline Calvez, députée de la 5e circonscription des Hauts-de-Seine, donc élue depuis 2017 et coordinatrice pour La République En Marche de la commission des affaires culturelles, de l'éducation qui traite aussi de la jeunesse et de la vie associative. Et j'ai aussi 2 enfants comme Laurie.
Oui, d'ailleurs, j'ai bien aimé sur ton profil Instagram, tu as mis députée mère en jouant sur le jeu de mots maman. J'ai trouvé ça assez rigolo, pas mal. Et tu as aussi tu joues aussi un rôle important au sein de la délégation des droits des femmes à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas?
Exactement, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, j'ai pu travailler notamment sur la place des femmes dans les sciences et la place des femmes dans les médias.
Qui est un peu le cœur de Popol quand même, c'est assez important. Et super, bien écoute, merci beaucoup, merci d'être là avec nous. Et enfin, nous avons le plaisir aussi de recevoir Emma Anthropoli. Bonjour Emma.
Bonjour, bonjour à toutes. Alors, je me présenterai rapidement. Donc Emma Anthropoli, je suis élue à la ville du Pré-Saint-Gervais, qui est une commune de 18 000 habitants en Seine-Saint-Denis. Et par ailleurs, donc, je suis engagée au Parti Socialiste et présidente du Réseau Femmes 93, voilà, qui milite aussi pour l'égalité en politique des femmes et des hommes.
Ouais. Génial, merci beaucoup. Donc, on partage, je crois, tout un but commun qui est de faire plus de place pour les femmes dans les médias et dans la vie politique. C'est fabuleux. Je vous propose de parler de 2 sujets aujourd'hui. On va parler du projet de loi climat et résilience ainsi que des récentes annonces d'Emmanuel Macron pour endiguer le coronavirus. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par notre premier thème qui est celui du projet de loi climat et résilience. Ça vous convient?
Très bien.
Parfait. Lundi 29 mars, les députés ont débuté l'examen en hémicycle du texte issu des propositions émises par la Convention citoyenne climat. Cet examen, qui devrait durer 3 semaines, cristallise déjà les tensions autour d'un texte qui fait particulièrement débat. L'opposition critique vivement ce texte qui est perçu comme trop ambitieux à gauche et trop contraignant pour la liberté d'entreprendre à droite. Au-delà de ces clivages politiques, le texte crée de nombreuses interrogations sur l'implication des citoyens et des citoyennes dans le processus décisionnel. En effet, Emmanuel Macron avait initialement annoncé que les 149 propositions issues de la Convention citoyenne sur le climat seraient adoptées et reprises sans filtre. Or, seuls 10% des propositions ont effectivement été reprises par le gouvernement sans aucune modification. Pour dénoncer cela, ainsi que le manque d'ambition du texte, des milliers de personnes ont manifesté à travers toute la France le 28 mars dernier afin de réclamer une vraie loi climat et la réécriture du texte. Qu'en pensez-vous? Ce texte est-il suffisamment ambitieux? Est-ce que le gouvernement aurait dû reprendre, tel qu'initialement prévu, sans filtre, les propositions de la Convention citoyenne? Emma, est-ce que tu veux commencer sur cette question, s'il te plaît?
C'est vrai qu'au moment de la création de la Convention citoyenne, il y a eu quand même quelques espoirs. Donc, les critiques toujours un peu classiques de dire oui, ça ne sera pas bien, etc. Moi, je trouve que les gens ont vraiment beaucoup travaillé et qu'il y a quelque chose qui était important là-dedans, dans la démarche, c'était que ça parte des gens et d'une représentation, on va dire, équilibrée de la France. C'était censé répondre à la crise aussi des Gilets jaunes. La problématique qu'on voit, nous, y compris sur le terrain, c'est un manque d'adhésion, à une vision un petit peu macro sur les enjeux climatiques, etc. On se dit, c'est loin, mon quotidien, etc. Et donc, le fait que ça parte du terrain et ça parte des gens, pour moi, ça a suscité un vrai espoir. Et le problème, c'est qu'ensuite, mais on l'a vu aussi dans la crise Covid, la machine technocratique commence à arriver et on traduit en fait quelque chose qui est très concret pour les gens en quelque chose qui finalement, je crois que c'est 69 articles finalement qui ont été retenus à la fin, avec certaines qui sont appliquées, certaines qui sont dans un autre texte, etc. Et ce qui devait être à la base un référendum pour moi ou quelque chose de très lisible pour les citoyens devient beaucoup moins ambitieux. Et du coup, je trouve ça assez dommage. Mais je vais laisser le débat et je pense que voilà, on aura toutes des choses à dire là-dessus. Mais moi, je pense que on n'y arrivera pas en fait sur des enjeux qui sont hyper importants sans susciter l'adhésion et donc la lisibilité un petit peu de tout ça. Et à mon avis, ça manque beaucoup dans l'ambition.
Ouais, c'est assez intéressant ce que tu dis. Moi, je me questionne aussi sur finalement le rôle du Parlement quand il y a une assemblée citoyenne qui est saisie et qui est mandatée pour écrire un texte. Toi, Céline, comment tu le perçois en tant que députée sur cette initiative qui, pour moi, est une véritable prouesse hein, démocratique, en tout cas à la base sur l'idée et sur la conception de cette convention. Comment tu l'avais accueillie, toi, à l'époque, lorsque ça a été annoncé?
Je l'avais super bien accueilli parce que pour moi, la démocratie représentative telle que on l'incarne en tant que député, eh bien, ça peut être complètement complété par des démocraties participatives. J'ai eu l'occasion de travailler et depuis longtemps sur la démocratie participative, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, correspond à c'est un facteur d'adhésion et c'est surtout un facteur de pertinence parce que, en fait, les citoyens ont développer une expertise, parfois qui s'ignore, elle a besoin d'être accrue, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste demander à quelqu'un son avis, il faut la nourrir. Et c'était bien le but de la Convention citoyenne, on n'a pas juste pris 150 personnes comme ça et on leur a demandé qu'est-ce que tu en penses. Ils ont travaillé pendant des mois pour accoucher de propositions. Mais je sais que certains de mes collègues ont pris cette initiative comme une concurrence et se sont vraiment posé des questions sur la possible complémentarité, alors que moi je trouvais justement que cette démarche, on peut la penser complètement complémentaire. Après, plus globalement sur l'ambition de ce texte, on entend, hein, oui, c'est pas assez ambitieux, il faut bien garder quand même quelque chose à l'esprit. Le texte ne répond pas à tous les enjeux du défi climatique, parce que si une loi pouvait le faire, ce serait génial. Je pense que, en fait, quand on parle d'une loi, il ne faut pas tout lui mettre comme responsabilité. En fait, la loi, elle donne un cadre, mais il faut aussi miser sur la politique budgétaire que l'on va pouvoir faire pour accompagner cette loi. Et cette loi, elle peut dégager un cadre, mais c'est surtout par ce que l'on va mettre en termes de budget qu'on va pouvoir compléter. On peut aussi se dire que oui, on peut toujours aller plus loin, il faut aller aussi à un bon rythme. Il ne faut pas non plus braquer les uns contre les autres, etc. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Et moi, je pense que pour répondre sur la question de la lisibilité pour les citoyens, en fait, la loi, déjà, et c'est très peu lisible par les citoyens, nul n'est censé ignorer la loi, mais franchement, c'est aride de prendre un texte de loi, c'est complètement aride de lire, on ne voit pas les conséquences que ça va avoir sur nos vies. Mais pour reprendre le terme de lisibilité, la lisibilité, c'est ce que l'on a pu faire en termes de l'affichage environnemental qui va faire que sur tous les produits et les services, on va rendre lisible l'impact que a eu ce produit ou ce service sur les émissions des gaz à effet de serre, par exemple. Et ça, c'est rendre lisible auprès des citoyens. Ça, c'est très concret. C'est très concret. Mais je pense qu'on va revenir sur le contenu après. Mais en gros, la démarche, je la trouve parfaite, effectivement inédite. Ça montre que l'on peut mettre en capacité les citoyens de pouvoir être éclairés et choisir. Et donc ça, plus on peut le faire, moi j'imagine que voilà, il faudrait le rééditer sur d'autres enjeux que la lutte contre le réchauffement climatique. On pourrait le faire sur d'autres enjeux. Je pense que notamment les jeunes, les plus jeunes, leur donner la parole sur les politiques qui les concernent, c'est plutôt chouette et ça marche plutôt bien.
Oui, c'est vrai. Mais après, je pense, et je comprends un peu la déception de ces citoyens, les citoyennes qui ont été tirées au sort pour participer à cette convention. et qui ont eu l'impression que finalement leur travail avait été un peu saboté et que tous les mois de travail qu'ils avaient fournis, tous les efforts qu'ils avaient fait pendant plus d'un an, je crois, 17 mois hein, de mémoire, c'est énorme, avaient été un peu balayés d'un revers de la main, et je comprends la frustration aussi. Laurie, tu l'as perçu comment, toi ?
Moi, je pense que ça part d'une très bonne volonté. Et que vraiment 149 propositions, c'était énorme, mais dans ce que j'ai pu lire, il n'y en a que 46 qui ont été reprises finalement au bout de quasiment un an de travail. Et j'ai l'impression aussi qu'on cherche à détricoter ce qui a été fait, et que finalement on trouve des façons d'édulcorer les propositions qui ont été faites. Et j'ai lu dernièrement dans un article qu'il y avait aussi cette façon de rendre irrecevables certains articles ou certaines propositions en les qualifiant de cavaliers législatifs. Donc en disant qu'il n'y aurait aucun lien avec la thématique du climat. Et parce qu'a priori, le projet de loi regroupe vraiment des choses très larges. Et on essaye d'édulcorer ça en disant qu'il n'y a aucun lien qui soit direct ou même indirect. Et j'ai lu aussi que la qualification d'un lien indirect était vachement, ça tenait, c'était ambigu en fait. On ne pouvait pas vraiment qualifier comme ce soit un lien indirect par rapport à une proposition budgétaire où on peut dire clairement avec des chiffres si ça concerne vraiment le climat ou pas. Donc, je trouve que c'était vraiment une bonne façon de faire, mais je pense que le résultat va être plus que décevant. Et c'est inquiétant parce que, par exemple, cette question des menus végétariens dans les cantines scolaires, ça suscite beaucoup d'interrogations et de débats. Mais je pense qu'une loi devrait acter ça et devrait rendre plus concret le fait que les menus végétariens sont... et c'est en plus, c'est le régime alimentaire qui peut faire plus pencher la balance au niveau du climat. On voit que tout ce qui est déchets, recyclage, etc., il y aura moins d'impact que le régime alimentaire. Parce que la viande a un effet hyper délétère sur le climat. Ah, voilà, enfin, je...
Ouais, voilà mon avis. C'est intéressant de revenir d'ailleurs sur les mesures, les principales mesures. Toi, Emma, quelles sont les mesures qui te semblent véritablement ambitieuses dans ce texte et quelles sont celles qui te semblent pas suffisamment ambitieuses et qu'on devrait peut-être pousser un peu plus loin ?
Oui, alors moi, par rapport en fait à ce texte, juste en préambule, pour moi, il ne faut pas décorréler la question de l'écologie, la question du social et le pacte qu'on fait avec les citoyens, sinon ça ne peut pas marcher. Et on le voit vraiment dans nos villes. Alors, je ne sais pas de quelle ville vient Céline Calvez, mais moi, en première couronne, on le voit, puisque en fait, on a deux types de populations, certaines qui sont très engagées sur du 100% écologie et d'autres, en fait, qui ne se sentent pas forcément concernées. Et en fait, ça peut créer une sorte de fracture au sein de la société qui, à mon sens, doit être un petit peu analysée, nous, à notre niveau politique. Et on dit souvent, en fait, que la politique suit les évolutions sociales. Et là, en fait, on est un peu entre deux, puisque oui, il y a des évolutions sociales, mais qui n'impliquent pas forcément tout le monde, et la demande ne vient pas de tout le monde. On l'a vu, par exemple, quand il y avait la question des limitations de vitesse. Donc, alors, certains étaient complètement pour, d'autres étaient complètement contre. On le voit quand on parle des voitures diesel, pas diesel, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est que la question, par exemple, de la mobilité, c'est une question qui est hyper importante, mais on ne peut pas calculer la chose de la même manière si on peut aller vélo taffer le matin ou si, à un moment donné, on habite au fin fond de la Grande Couronne et qu'on travaille à Paris et qu'à un moment donné, il n'y a pas de RER, pas de bus, rien du tout. Et ce n'est pas du tout la même vie. Donc, pour moi, l'enjeu qu'il y a derrière aussi cette question qui avait été soulevée par les Gilets jaunes et d'où part en fait tout ça aussi, puisque la Convention citoyenne, l'idée, c'est que ça partait aussi de là, c'est de ne pas créer cette fracture. Et pour moi, c'est ça le plus important au-delà du détail de mesure. Donc, s'il y a des mesures emblématiques, en tout cas, ou des mesures qu'il faudrait voir, c'est aussi sur la question du logement et la question de la rénovation des logements. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que l'énergie, au final, la plus propre, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc, quand on a des gens, et notamment, ça peut être le cas dans nos villes, parce qu'on a des logements qui datent des années 30, etc., qui n'ont jamais été rénovés, notamment en quartier prioritaire, puisque moi, le quartier prioritaire dont j'ai la charge, c'est un quartier où il y a très peu de logements sociaux, mais beaucoup d'habitats dégradés. Donc, en fait, les gens vivent dans des taudis, très concrètement. Il y a des marchands de sommeil. Et en fait, quand on vient parler de plein de mesures hyper écolo à ces gens-là, en fait, il n'y a pas d'adhésion parce qu'en fait, on est sur plein d'autres choses et on ne fait pas du misérabilisme. Ce n'est pas ça l'idée, mais c'est que, en fait, qu'est-ce qui touche les gens? Donc, il y a la question du logement, la précarité énergétique des gens qui sont dans des bâtiments où, en fait, c'est une passoire. Et pour se chauffer, c'est compliqué. Il y a des histoires aussi sanitaires derrière tout ça. La question du déplacement, comme je vous disais, quand on est au fin fond de la Grande Couronne et qu'on ne sait pas se déplacer à vélo, mais aussi, au fur et à mesure, par rapport aux besoins, la voiture, l'achat des véhicules propres, c'était aussi dans les propositions de la Convention citoyenne. La question des mobilités douces, donc les vélos, les autoroutes à vélo, tout ce qui est infra, même si, pour moi, il ne faut pas aussi se tromper, parce que, certes, il y a la loi, mais après, il y a un niveau de compétence. Il y a des compétences qui sont dépendantes des collectivités, il y a des compétences qui relèvent de l'État. Et on l'a vu dans la question des transports, notamment à Paris, hein, puisque c'est, en tout cas, moi, ma zone de compétence, la région parisienne, c'est que, oui, il faut investir dans les transports. Mais alors ça, c'est le truc de la région. Et est-ce que la région a les moyens d'investir dans les transports ou pas? Et donc, oui, il faut donner aussi les moyens. Et je pense que là, on est dans une période inédite avec notamment le Covid et tout ce qui s'est passé, pour faire une forme de relance, un plan Marshall écologique, on va dire, avec des investissements lourds là-dessus. Et dernier point, c'est tout ce qui est autour de l'habillement, la nourriture, le bien manger. Moi, je parle en tout cas, on parle, nous, au niveau de notre territoire, de démocratie alimentaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et on l'a vu pendant la période Covid, la cantine, c'est le lieu de l'égalité républicaine sur la question du bien manger. Et donc, il y a l'histoire des menus végétariens, il y a aussi les circuits courts, mais il faut rappeler que les cantines scolaires, c'est des choses qui sont à la charge des collectivités. Donc, quand on est en Seine-Saint-Denis et qu'à un moment donné, on a beaucoup moins d'argent que dans les Hauts-de-Seine, désolé, pas de choses personnelles, mais c'est quand même la réalité, et bien les collectivités sont un peu plus à la peine pour proposer des choses aussi qualitatives que dans d'autres départements. Et il y a vraiment un enjeu, pour moi, d'équité territoriale sur ces sujets. Donc, voilà.
Ouais, c'est vrai, ça, c'est des éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que Céline parlait notamment de budget tout à l'heure, lorsque tu évoquais ce texte. C'était intéressant ce que tu disais, Laurie, parce que tu as mis en avant un aspect qui, pour moi, était assez inattendu, alors qu'on aurait pu effectivement l'anticiper compte tenu des récentes polémiques. Le fait que ce texte soit aussi clivant politiquement, c'est quand même, moi, ça me surprend beaucoup. Je comprends que les textes sur des sujets de société, et encore, moi, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, mais qu'il y ait des débats très forts, très houleux au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat sur le projet de loi séparatisme, des choses comme ça. Mais sur le climat, on est tous plus ou moins d'accord pour se dire qu'effectivement, on va quand même, on sait tous qu'on va droit dans le mur ou pas loin et qu'il faut impérativement faire quelque chose. Et sur des mesures telles que effectivement les repas végétariens, on a vu déjà le clivage que ça avait créé récemment entre la mairie de Lyon et aussi certains membres du gouvernement. Mais à quoi bon? Je veux dire, pourtant, on est quand même toutes et tous au fait qu'effectivement, les menus végétariens, et tu as raison, il faudrait certainement les promouvoir puisque c'est le type d'alimentation qui est le plus respectueux de l'environnement. Enfin bref, du coup, Céline, toi, tous ces clivages, est-ce que tu t'imaginais que ça allait être aussi compliqué finalement au sein de l'Assemblée sur les débats?
Je ne sais pas si je les ai anticipés, mais en fait, pour moi, il y a une façon de penser à très long terme ou à moyen terme. Et en fait, si on se place à long terme, oui, il faut être assez radical dans les choix de société. Si on se place à moyen terme, je vais reprendre l'exemple des repas végétariens. Moi, j'y suis complètement favorable. Mais vous voyez bien que derrière, à moyen terme, ça soulève la question de la production de la viande. Ça veut dire que ce qui, aujourd'hui, constitue une grosse partie de notre alimentation et des emplois. Et si on leur dit tout de suite, maintenant, on va vous empêcher une partie du marché, ça va avoir des conséquences économiques. Sommes-nous prêts à le faire? A priori, non, et personne ne le souhaite. Mais par contre, il faut accompagner cette transition. Donc, il faut vraiment pouvoir doser la façon dont on va accompagner cela. Je reviens aussi sur ce que disait Emma sur la capacité des collectivités publiques à pouvoir prendre l'initiative de proposer des repas végétariens avec des produits locaux, etc. Effectivement, c'est quelque chose qui va demander plus de budget dans un premier temps. Ou en tout cas, on a l'impression, on pourrait en discuter. Mais soit on se dit, on laisse l'initiative se faire et il y a une expérimentation et c'est très bien, soit on est un peu plus brutal, mais là, ça veut dire qu'on risque aussi de fracturer la façon dont c'est pris en charge par les collectivités. Et donc, en tant que politique, à chaque fois, on est obligé aussi de venir prendre tous les paramètres. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien que, hop là, allez, on arrête tout, on change nos modes de vie, tout va bien, tranquillement. Mais ça a des conséquences, je vous dis, sur l'emploi, sur l'économie, sur notre capacité à faire aussi d'autres types de politiques. Et donc, je pense que ça, les citoyens qui ont participé à la convention ont avancé justement dans leur cheminement parce qu'ils se sont rendus compte que mettre en place telle ou telle mesure, ça pouvait avoir d'autres conséquences, que ce n'était pas forcément possible. Voilà, donc ça, il faut pouvoir le sentir. Ensuite, pour réagir à ce que tu disais, Léa, sur, et je reviens sur le caractère... peut-être clivant, de quelque chose que nous constatons tous, oui, il faut qu'on combatte ce réchauffement. Déjà, il y a quelques années, on n'était pas tous d'accord sur la façon dont l'homme impactait le réchauffement climatique. Déjà, ça, sur le constat, je crois qu'on est assez bon. Eh bien, c'est un débat de société, en fait. C'est complètement un débat de société, parce qu'on pourrait le comparer. Moi, je pense que les principes républicains ou la bioéthique, c'était des débats de société, mais celui-ci en est un totalement. Ce n'est pas seulement un débat sur l'environnement, puisque c'est vraiment un débat sur le développement durable, et dans le développement durable, on a l'environnement, mais on a aussi l'économie et la société qui sont les trois piliers. Donc, ça a pu entraîner des prises de position. Moi, je serais beaucoup plus... j'aime beaucoup la nuance. Et je pense que la nuance, il faut aussi qu'on en ait chacun. Comprendre ceux qui produisent des viandes contre ceux qui produisent des légumes, c'est pas la solution. C'est plutôt de dire on va aller de plus en plus vers ce modèle. Il ne faut pas braquer et brutaliser les gens en imposant un rythme trop rapide. Mais par contre, il ne faut pas non plus réveiller des guerres intestines comme ça en opposant un modèle par rapport à un autre. Enfin, je trouve que là, moi, je suis pas du tout d'accord sur le fait de dire « Ah oui, mais il y a la filière viande, donc le repas végétarien, c'est du dogmatisme. » C'est très bien, le végétarien. Enfin, c'est très bien, on mange trop de viande. On mange trop de viande. On sait très bien que la production de la viande a des conséquences néfastes et ça contribue à l'augmentation du réchauffement climatique. Eh bien, oui, je ne traite même pas du bien-être animal là-dedans, alors qu'on sait qu'on est très sensible. Donc il y a ce besoin de chercher la nuance, mais il faut être férocement modéré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être féroce, mais par contre, il faut être attaché à trouver la modération, parce que c'est ça qui va nous permettre d'accompagner l'ensemble des acteurs, que sont les citoyens, mais les acteurs économiques, les acteurs de l'environnement, c'est tout ça. Et c'est très dur. À chaque fois que vous discutez d'une loi, vous vous dites, bon, là on a l'occasion d'une loi, ça ne va pas se représenter tous les quatre matins, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Moi, par exemple, j'ai souhaité aller plus loin, notamment sur la publicité. On était une cinquantaine à vouloir pousser des mesures qui aillent plus loin, mais en donnant un cadre en plus temporel assez long, on sait que on a des personnes qui pensent que c'est pas bien, mon Dieu. Moi, je voulais contraindre la publicité des produits qui sont néfastes, mais favoriser la publicité de ceux qui sont une solution parce que ça a moins d'impact. On a dit, c'est que de l'interdiction. Mais non, c'est justement assez pragmatique. Donc, moi, il y a des choses sur lesquelles je pense que nous pourrions aller plus loin.
Oui, bien sûr. Et puis c'est assez intéressant aussi de voir les rapports de force sur les questions climatiques. Et comme tu me le dis, c'est très juste. Hein, c'est vraiment un choix de société, en fait. Comment on décide d'aller vers une société différente et aussi de s'astreindre aussi des comment dire, de changer un peu le rapport de force par rapport à des acteurs qui sont très impliqués, par exemple, dans certaines industries. Ça aussi, il y a quand même une acceptation à avoir du côté des entreprises, etc. Donc, c'est effectivement un enjeu très important. Laurie, je te laisse la parole pour conclure sur ce thème, s'il te plaît.
Oui. Moi, je voudrais reprendre aussi ce qu'a dit Emma tout à l'heure, parce que ça me semblait pertinent d'obtenir l'approbation des personnes en agissant vraiment sur ce qui fait leur quotidien. Donc, c'est vrai que quand on va parler de repas végétariens ou ce genre de choses à des personnes qui habitent dans des logements insalubres ou dans des logements qui sont des passoires thermiques, clairement, ça va pas leur parler. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il faut accentuer les choses, il faut agir sur ça. Et c'était important de le rappeler. Après, au niveau de la viande, je pense qu'il y a des enjeux financiers qui sont énormes et des lobbies aussi qui agissent dans l'intérêt de la viande et des élevages. Et je pense que le choix, on l'a, mais qui est vachement... comment dire, il y a deux poids, deux mesures. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça. J'ai l'impression que les gens qui ont participé à la Convention citoyenne pèsent moins lourd quand même que les acteurs économiques de la viande et de ces industries-là. Voilà. Ensuite, je voulais revenir aussi sur les disparités au niveau des collectivités territoriales. Moi, je suis du Pas-de-Calais et clairement, il n'y a pas de moyens pour, par exemple, nous faire des pistes cyclables partout. Donc moi, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller prendre le train ensuite pour me rendre à Lille. Donc vraiment, il y a une intermodalité, mais elle m'est imposée du fait que je n'ai pas d'autre choix en fait. Donc voilà. Et pourtant, de ce point de vue-là, j'aimerais bien pouvoir prendre mon vélo en toute sécurité et me rendre à la gare. Voilà. Donc je pense que sur cette loi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et beaucoup de thèmes à aborder sans trop édulcorer la loi. Et voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense.
Quelles auraient été, par exemple, pour toi, les mesures, même si c'est une ou deux propositions, hein, qui t'avaient un peu, enthousiasmée à l'époque de la Convention citoyenne et qui finalement n'apparaissent plus dans le débat aujourd'hui?
Par exemple, j'ai été un peu scandalisée qu'on essaye de passer à la trappe le système de consigne pour les bouteilles en verre. Je trouvais ça super bien de revenir à la consigne comme ce qui se faisait avant. Et là, on essaye plus ou moins d'annuler cet article-là, enfin, je sais pas, enfin, cette thématique-là, alors qu'on sait que le verre est la matière qui se recycle le mieux et qui est la plus simple à collecter, à recycler. Enfin, je trouve ça dommage. Ça m'avait interpellée. Et après, sur d'autres choses, moi, ce qui m'avait plus enthousiasmée, oui, c'était la mise en place des repas végétariens, parce que clairement, pour moi, je suis convaincue que la viande a un énorme impact sur l'écologie et aussi sur la rénovation thermique des logements, accentuer plus les choses. Mais je pense aussi que ça relève des collectivités territoriales et des villes, surtout. Donc, est-ce que les villes auront les moyens de mettre en place ces rénovations-là? J'ai des doutes. Et ça va dépendre.
Oui, Céline, je t'en prie.
Ouais. Oui, alors sur la rénovation, donc ça n'a pas encore été discuté, hein, ça fait partie d'un titre à venir. Moi, je dois dire que voilà, il va y avoir des grandes avancées là-dessus. Et la rénovation, on a aussi accompagné dans le cadre du plan de relance des rénovations énergétiques de bâtiments, surtout des bâtiments publics. Alors vous imaginez par exemple les universités, vous imaginez également voilà, tout autre type de bâtiment public. Dans le cadre du plan de relance, ça veut dire 2021 et 2022, ces projets sont accompagnés. Ça, c'est très concret et ça, c'est de l'argent. Il va y avoir un encouragement supplémentaire dans cette loi parce qu'effectivement, l'enjeu, et vous l'avez tout mentionné, il est il est extrêmement, extrêmement important parce que c'est dans les logements qu'on a la plus grande partie de la déperdition énergétique. C'est facteur de perte de pouvoir d'achat, c'est facteur d'inconfort. Donc, effectivement, il faut vraiment massivement faire ce plan. Et là-dessus, vous verrez que la loi va faire des grandes avancées. Et je voulais juste terminer en disant que quand j'ai été interpellée par par les citoyens de ma circonscription sur ce projet de loi, c'est surtout sur les repas végétariens, effectivement, où les personnes sont plutôt moteurs en disant « il faut le faire, il faut le faire ». Et donc, c'était le thème qui les intéressait. Donc, ça, c'est à l'article 59, je crois. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, mais voilà, la semaine prochaine ou la semaine suivante.
Oui, dans tous les cas, il reste encore 2 semaines de débat, donc les choses sont vouées à évoluer. Et puis après, il faut que ça passe au Sénat, là, on va bien se marrer aussi.
Oui, on va bien se marrer. Et puis, parfois, le Sénat est étonnant. Parfois, il est plus progressiste étonnant, là où oui. On ne l'attendait pas.
Ah oui, donc, oui c'est bon. Sûr. À suivre. Emma, tu voulais dire un petit mot pour conclure?
Un dernier mot pour conclure et pour encourager Céline Calvez qui va faire partie des gens qui vont représenter les citoyens pour parler de ce texte. Moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de grande ambition sans budget. Donc, il y a cette loi, il y a tout le cadre juridique que ça va mettre en place, mais il y a surtout le PLF et les arbitrages budgétaires. Et je pense que c'est l'occasion, jamais par cette loi, mais également par la crise sanitaire que nous traversons, de revenir à un état stratège et de ne pas faire de demi-mesure sur les investissements qu'il va falloir faire dans le pays pour arriver, je rappelle, à un objectif très ambitieux hein, de réduction des gaz à effet de serre au niveau français et européen.
Merci voilà, beaucoup. Et c'est déjà le cas avec le plan de relance. Hein. On n'est pas non plus… ça, c'est en millions, 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 hein. Donc c'est déjà en route, mais il faut que ça continue.
Tout à fait. Et on va suivre ça de près, n'est-ce pas? Merci beaucoup à toutes les trois pour vos éléments sur ce thème très important. On va parler désormais des récentes annonces qui ont été faites par le président de la République pour lutter contre le Covid-19. Mercredi dernier, le président de la République a annoncé un reconfinement national et la fermeture des écoles pendant 4 semaines. Emmanuel Macron se donne 6 semaines pour rouvrir progressivement le pays. Pour ce faire, le président français entend vacciner, vacciner, vacciner. Or, les retards de livraison ainsi que les difficultés logistiques pour administrer les vaccins ne garantissent pas tout à fait que les objectifs annoncés par le gouvernement soient effectivement tenables. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comme l'a annoncé notre président, vous pensez que les mesures prises seront suffisantes pour que le pays puisse effectivement réouvrir progressivement d'ici 6 semaines? Ou est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été décidées ne sont pas suffisantes et que finalement le bout du tunnel est peut-être un peu plus loin que ce qu'on imagine ou qu'en tout cas ce qu'on est en train de nous annoncer? Laurie, je te laisse démarrer sur cette question.
Oui. Moi, je pense qu'on va voir le bout du tunnel à l'issue de ces 6 semaines. En tout cas, je l'espère très fort. Et je pense que l'arrivée du nouveau vaccin va aussi permettre d'accélérer la campagne de vaccination. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place avec les vaccinodromes notamment. Je pense que ça va aussi accélérer la vaccination parce qu'on va avoir des millions de doses supplémentaires, mais il faut aussi pouvoir les administrer par la suite. Et je pense qu'il y a assez de personnel et il y a assez de choses qui sont mises en place pour sortir de cette crise. Et j'espère aussi qu'il ne va pas avoir un clivage entre les vaccinés et les non-vaccinés et qu'il n'y aura pas de passe-droit pour les vaccinés. Par exemple, les personnes de plus de 60 ans qui auront été vaccinées, qui pourront aller au restaurant, tandis que nous, on sera encore chez nous. Enfin, voilà, je pense que... J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de clivage de ce côté-là.
Voilà. Et sur la fermeture des écoles, tu penses que c'est une bonne mesure?
Oui, moi je pense que c'est une bonne mesure parce que je pense que le coronavirus n'impacte pas les enfants d'une façon trop délétère, mais ils sont quand même acteurs de la transmission. Et surtout, ils sont souvent gardés par les papys, les mamies, oncles et tantes, et on ne peut pas empêcher ça. Je veux dire, moi, ma mère va chercher mon fils régulièrement à l'école, mes beaux-parents aussi, ils vont chercher ma petite chez la nounou. Donc, il y a quand même beaucoup de risques de ce point de vue-là. Même si on essaye de garder la distanciation, c'est quand même compliqué avec un petit de rester toujours à 1 mètre de distance en gardant les masques, etc.
Voilà. Oui, c'est sûr. Emma, toi, comment as-tu accueilli ces mesures?
Alors, bah, nous, on les accueille à chaque fois puisqu'on doit les mettre en œuvre au niveau de notre ville. Puisque, comme vous le savez, les mesures sanitaires, après, ça descend. Donc, quelques éléments. Donc, il y a des annonces, mais ensuite, avant que le décret ou l'application arrive chez nous, ça prend quelques jours. Souvent, il y a un week-end au milieu. Donc, on reste vraiment dans des situations qui sont un petit peu incertaines. Et on fait au mieux parce que nous, on a un discours de responsabilité auprès de la population. On ne va pas faire une polémique inutile sur c'est bien, c'est pas bien, etc. Nous, notre but, c'est que les populations puissent être au maximum préservées de cette maladie. Concrètement, dans les écoles, c'est l'application des protocoles sanitaires. Ça pose énormément de questions et vraiment, je voudrais saluer les agents du service public qui ont été exemplaires depuis un an. Donc, il y a eu la mise en place du télétravail pour certains, des astreintes pour d'autres, etc. On vit en fait dans un stop and go permanent. Mais nous, en fait, on est vraiment dans un discours de responsabilité pour dire que on fera tout pour que ça se passe au mieux avec des distributions de masse, etc. Donc, moi, je suis partie du département qui a été le plus touché par le coronavirus, la Seine-Saint-Denis. Donc, vous le savez, c'est le département où il y a des logements suroccupés. On est toujours dans la même situation et des communes qui doivent gérer. Même si on sait que c'est assez compliqué, il y a vraiment un sujet encore d'égalité territoriale. Et bon, ça va être le leitmotiv depuis ce qu'on se raconte tout à l'heure. On a un sujet où il y a eu la polémique autour du fait que les habitants de Seine-Saint-Denis n'arrivaient pas à trouver des créneaux de vaccins parce que des habitants d'autres départements venaient se faire vacciner dans le nôtre. Une fracture numérique pour comprendre à un moment donné comment on pouvait se faire vacciner. Donc, il y a le département qui a mis en place un bus itinérant pour aller dans les villes, pour permettre aux gens de se faire vacciner directement. Et il y a le sujet aussi du port du masque, qui a un masque ou pas. Donc, nous, notre ville, on a fait plusieurs distributions de masques, mais y compris pour les profs, puisque le sujet, et ça me permet de le faire remonter à Céline Calvez, c'est que, en fait, l'Éducation nationale n'a pas fourni de masques pour les enseignants. Et aujourd'hui, se pose la question de est-ce qu'on pourrait vacciner en priorité, y compris les enseignants, pour permettre la réouverture des écoles. Donc, en fait, l'état stratège, c'est aussi là, à un moment donné, d'avoir une vraie planification. Et on est bien entendu au courant que personne n'a une baguette magique face au coronavirus et que chacun essaye de faire du mieux qu'il peut. Et tous les responsables politiques qui ont agi là-dessus, sont bien au courant de tout ce qui se passe. Mais à un moment donné, il y a des sujets un peu de tension. Et je voudrais terminer sur la jeunesse. Et vraiment, en ce moment, moi, je peux côtoyer beaucoup de jeunes, donc je suis élue aussi à la jeunesse. Des jeunes qui soit sont étudiants et ne vont plus à l'université ou ils vont un jour par semaine maintenant. Des jeunes qui passent leur bac cette année, qui se demandent si avec la nouvelle version du bac, ils vont passer leur grand oral, pas leur grand oral, comment ça va se passer. Il y a des jeunes qui sont au lycée ou au collège qui ont complètement décroché, soit parce que ils ont besoin d'un cadre, soit parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas l'ordinateur, la connexion Internet, etc. Donc, il y a des collectivités comme départements, etc., qui ont essayé de mettre à disposition, mais on ne peut pas équiper tout le monde de tout. Donc, il y a eu quelques petits équipements. Nous, on a équipé au niveau des écoles en donnant le matériel qu'il y avait dans les écoles auprès de certaines familles qui en avaient besoin. Mais il y a ce sujet-là. Et il y a le sujet des RICS. On a eu, durant les précédentes vacances, à avoir des sujets très graves de RICS entre jeunes. Nous, notre ville a été déjà touchée par ce phénomène avec deux jeunes qui sont morts, mais dans des années précédentes. Et on voit qu'il y a une montée de la tension, en fait, sur la jeunesse, parce que ils peuvent plus aller faire de sport, ils peuvent plus voir leurs copains, on ne veut pas qu'ils traînent dans les rues. Et vraiment, la situation est de plus en plus tendue. Donc, c'est l'enjeu, ça va être comment on fait un équilibre entre tout ça. Et nous, par exemple, là, au niveau de l'accueil de loisirs pendant les vacances scolaires, donc qui sont pour tout le monde les mêmes, mais qui correspondent à notre zone dans tous les cas, on se dit, mais concrètement, pour les jeunes, on va leur proposer de faire quoi? Parce que là, on ne tient plus. Et moi, je voulais les saluer parce que à chaque fois, ils avancent, etc. Ils sont très patients. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on sacrifie aussi
la jeunesse, son avenir, son orientation. On a eu Parcoursup là récemment, c'était l'horreur. Tout le monde est venu en disant mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, je ne sais pas du tout, etc. Et donc voilà, c'est par rapport à la jeunesse aussi où ça va être un enjeu et comment on tient l'équilibre là-dessus.
Merci beaucoup, c'est vrai que c'est un point super important et puis il y a beaucoup de frustration qui se crée en cette période, là. Les gens en ont marre quoi, mais quand même moi je trouve que globalement les Français réagissent assez bien par rapport aux mesures qui ont été annoncées et d'ailleurs la majeure partie de la population, les Françaises et les Français étaient appelés en fait le gouvernement à réagir depuis des semaines presque, beaucoup auraient aimé que le confinement soit annoncé plus tôt, que les écoles soient fermées plus tôt. Céline, est-ce que tu penses que le gouvernement a fait le bon choix que d'attendre ?
Bah, attendre, ça a permis à ce que les élèves aillent un peu plus à l'école, et ça c'est très important en fait, il faut le souligner, le choix de la France ça a été de laisser ouvert les écoles le plus longtemps possible. On a pu assurer une année jusqu'ici complète, ce qui, dans le cas de la majorité des pays européens, n'est pas le cas. Donc, en fait, il y a eu un choix aussi de pouvoir donner une priorité à la jeunesse en lui permettant de venir à l'école. Je ne reviendrai pas sur... il y a quand même eu un accompagnement de l'État, des collectivités locales, mais en fait, on ne va pas commencer à faire la concurrence de qui doit se débrouiller, qui fait rien. On a vu, et ça, je tiens à le souligner, c'est que au moment du premier confinement et de la distribution des masques, un peu de récupération politique de la part des collectivités aussi, c'était celle qui allait montrer qu'elle donnait des masques et oublier que l'État aussi en procurait. Il y a eu des millions de masques distribués, notamment aux familles défavorisées. Et donc ça, parfois, on utilise un peu la polémique et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'au final, qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche en mettant ces mesures ? C'est qu'on puisse s'en sortir collectivement le mieux possible pour notre santé, pour notre santé mentale, et puis aussi pour notre économie et presque aussi pour notre société. Est-ce qu'on est capable de vivre mieux ensemble ? Aujourd'hui, c'est vrai que ça a des conséquences sur notre façon d'interagir avec nos amis, avec les autres. En tant qu'élus, on a moins de contacts avec nos concitoyens, ou en tout cas, c'est transformé. Moi, je pense et j'estime que c'était nécessaire d'arriver à une extension des mesures de restriction qui concernaient uniquement quelques départements, mais de le faire au niveau national. On n'oublie pas non plus que dans ces annonces, au-delà des restrictions, il y a eu aussi une montée en capacité des lits de réanimation, appel à plus de personnel, et puis tout ça, ça s'accompagne de la campagne de vaccination. Et la campagne de vaccination, il faut que c'est chacun de nous qui doit comprendre qu'il y a eu une stratégie de vacciner en priorité ceux pour qui la maladie allait entraîner des complications, voire la mort. Et donc, c'est pour ça que, bien sûr, on est allé en priorité sur les plus âgés ou ceux qui étaient atteints de comorbidité. Mais on voit que ça accélère. Aujourd'hui, on est à 9 millions de personnes qui ont reçu une première dose, 3 millions qui sont vaccinés avec les deux doses. On va aller de plus en plus vers cette situation. Et moi aussi, l'idée, et je crois que c'est Laurie qui en parlait, c'est de ne pas dire d'un côté il y aurait des vaccinés et de l'autre côté il y aurait d'autres. Il faut que justement on arrive à le faire grouper pour que, et moi je suis sensible à ce que Laurie disait, tu parlais de l'exemple des restaurants. Ah mais oui, mais non, mais quelle horreur, s'il n'y a que les vaccinés qui vont dans les restaurants, ça va être très 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 frustrant. Mais on voit très bien que la vie de la population a changé sur la vaccination. Imaginez, il y a quelques mois, il y avait une vraie peur de la vaccination. Aujourd'hui, il y a une impatience de la vaccination. Moi, je peux vous parler du soulagement des personnes que j'ai vues aussi bien à Clichy ou à Levallois qui venaient de se faire vacciner. Et pour eux, je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette de les entendre et c'était un soulagement. Eh bien, oui, on a envie qu'on soit tous soulagés. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un peu plus d'efforts encore pendant quelques semaines. Mais moi, je fais assez confiance aux Français pour que ça soit respecté et que surtout, on pense à la finalité derrière. Et la finalité, c'est qu'on se retrouve au restaurant, tous, qu'on puisse ressortir, retourner dans les théâtres, qu'on puisse se dire que tout en... Enfin,
retravailler aussi pour la vie certains normale. Et certaines.
Ouais, de travailler parce que ceux qui sont au chômage partiel depuis des mois, C'est compliqué, ils ont perdu confiance, ils ont parfois perdu même des compétences. Et donc ça, il faut vraiment qu'on puisse tous exercer, reprendre confiance. Mais moi, je pense sérieusement qu'on va y arriver. On va y arriver. Et il ne faut pas que ça soit facteur de dissensus dans notre société. Moi, je pense qu'il y a une acceptabilité, il y a forcément des critiques, il y a des trucs qui ne sont pas parfaits. OK, parce qu'on y va en tâtonnement. Et moi, je suis persuadée qu'on va y arriver.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Merci Céline. Laurie, tu voulais rajouter un petit mot ?
Oui, un petit mot sur le fait qu'au début, les vaccins étaient mal perçus. Et je pense que les médias, malheureusement, ont insisté sur ce point-là, sur le scepticisme supposé des Français envers les nouveaux vaccins. Et on a surtout insisté sur ce temps. On nous a beaucoup dit on nous a sorti un vaccin en une année de temps, c'est trop court, moi, je ne me ferais pas vacciner. Donc ça a été vachement relayé au début d'année, décembre, janvier, on entendait parler que de ça, au lieu d'insister davantage sur ce qu'a permis le coronavirus en termes de recherche et en termes d'innovation au niveau des vaccins. On a quand même un vaccin avec l'ARN messager qui est une nouvelle technologie et on aurait dû promouvoir davantage ça au lieu de rester dans ce climat de scepticisme. Et au final, on voit bien que les gens sont soulagés. Je reprends ce que Céline a dit. Et c'est vrai, c'est une joie. Je veux dire, moi, ma mère a été vaccinée avec la première dose. Ça a été une joie et un soulagement énorme. Et on voit bien que les gens n'attendent que ça. Donc, pourquoi avoir insisté sur cette facette-là, c'est dommage. Enfin, moi, je trouve que ça a été dommage et ça a peut-être été une erreur aussi des médias.
Ouais, et c'est fou de voir aussi à quel point finalement l'adhésion autour du vaccin s'est faite rapidement, contrairement à ce qu'on pouvait anticiper en disant qu'en France, il y avait énormément d'antivax, etc. Bah, franchement, moi, je trouve que finalement, l'adhésion est quand même assez globale. Que les gens aient encore des doutes, voilà, moi, je peux le comprendre et il faut en discuter. Ça s'entend, c'est normal qu'on ait des interrogations. Mais en tout cas, oui, moi, je trouve que finalement, l'adhésion est assez générale. Il y a quand même, c'est assez résiduel, le nombre de personnes qui n'adhèrent pas à la vaccination. Je vous remercie beaucoup. C'était aussi un thème très intéressant. Effectivement, on reste sur cette note positive. On va passer à vos thèmes, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. On va commencer avec toi, si ça ne te dérange pas. Emma, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît ?
Alors, moi, je voulais parler d'un sujet beaucoup plus léger, puisque, bon, bah, voilà, on a parlé de plein de choses comme quoi, bon, bah, il y avait trop de gaz à effet de serre, le Covid, même si, bon, voilà, il y a plein d'espoir, on est tous convaincus qu'on va sortir du tunnel, que certains vont retourner au travail en présentiel, avoir un travail, passer le bac, etc. Moi, je voulais parler d'un livre que tu lis aussi, Léa, en ce moment, et qui s'appelle « Pourquoi les femmes ont une meilleure vie sexuelle sous le socialisme ?» Et ça, c'est l'argument massu pour adhérer au Parti socialiste. Donc, je l'ai à peine commencé, donc je ne pourrais pas vous faire tout le résumé de ce livre, mais l'idée, c'était de mettre un petit peu plus de légèreté sur tout ça. Et donc, le parti pris de l'auteur, c'est de dire que le capitalisme nuit aux femmes en les confinant dans la dépendance envers les hommes, puisque les relations intimes seraient soumises à des considérations économiques et donc qui fait une étude sur la condition des femmes dans l'ancien bloc de l'Est. Donc voilà, c'était ce petit thème. Et moi, c'est une réflexion aussi que j'ai pas mal en ce moment, en cas des réflexions que j'ai militantes, c'est la question de la rémunération du travail domestique. Voilà, je voulais un petit peu poser au débat, puisque aujourd'hui, vous faites le ménage chez vous, c'est gratuit. Vous faites le ménage pour quelqu'un d'autre, c'est payant. Vous gardez vos enfants, c'est gratuit. Vous gardez les enfants des autres, c'est payant. Donc, en fait, au final, c'est aussi toute cette question qui a été dans nos débats sur le revenu universel et sur plein d'autres choses. C'est de dire que, est-ce qu'à un moment donné, les femmes ne sont pas dans des situations de domination aussi économiques ? Parce qu'en fait, on compte dans l'économie que ce qui nous arrange et pas forcément toute la valeur ajoutée et la production qu'on fait par d'autres biais qui ne sont pas valorisés. Donc, moi, j'ai une réflexion là-dessus, une réflexion sur une semaine de travail qui pourrait être à 17 heures et qui pourrait nous permettre de nous engager dans des assos, etc. Alors, je ne sais pas si c'est encore du domaine de l'utopie, mais en tout cas, je pense que c'est aussi le moment, vu qu'on a un peu de temps, de se re-questionner un petit peu sur nos modèles d'organisation, de travail, de vivre ensemble, de produire pourquoi et de produire pourquoi faire. Donc voilà, je vais vous mettre ça au débat avec un peu plus de légèreté du coup que le reste des sujets très importants qu'on a abordés cet après-midi.
Mais oui, effectivement, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, je suis en train de le lire aussi, et finalement, ce n'est pas un sujet si léger que ça, hein, si on le prend quand même avec beaucoup de sérieux, mais l'aspect que développe l'autrice, d'ailleurs, dans ce livre, d'ailleurs, on va quand même la citer, il s'agit de Kristen Gozzi. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle dit qu'effectivement, là où finalement l'État fait défaut, par exemple, en tout ce qui est protection sociale et aussi aide aux personnes, aide à la personne, etc., ce sont finalement les femmes qui s'y collent. C'est-à-dire que quand il s'agit de garder les gamins, c'est les femmes qui s'y collent. Quand il s'agit de s'occuper des personnes âgées, c'est les femmes qui s'y collent. Quand il s'agit de faire le ménage, c'est les femmes qui s'y collent. Et qu'effectivement, si jamais l'État est en capacité de garantir davantage, et elle prend d'ailleurs la France hein, comme exemple positif à certains égards sur ces questions-là, avec la place de l'État-providence, elle met en avant qu'effectivement, si tous ces pans-là de l'économie étaient finalement investis par de véritables acteurs économiques et non pas des femmes qu'ils font gratuitement, on dégagerait plus de temps et plus de bien-être pour la femme. Et c'est vraiment assez, assez intéressant. Merci. C'était une bonne idée d'introduire cet ouvrage. Laurie, tu voulais nous parler de quoi ?
Eh ben, moi, je voulais vous parler du revenu minimum universel. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Emma. Et je pense que 1 000 euros pour tous, à partir de 18 ans, ce serait pas impossible à faire. Et je pense qu'avant tout, ce serait pas, comment dire, ça ne serait pas de la paresse. Parce que souvent, quand j'en parle autour de moi, on me dit « Ah oui, mais les gens ne vont plus travailler. » Mais je pense que ce serait la meilleure façon de revaloriser le travail et de donner envie aux gens de travailler pour un salaire décent. Parce qu'il me semble que de travailler pour un salaire de 1 200 euros par mois, ce n'est pas décent. Donc, si on avait ces 1 000 euros dans notre poche garantis tous les mois, ce serait beaucoup mieux. Et voilà, donc... Peut-être que le levier économique, ce serait de distribuer moins d'allocations, plus de RSA, supprimer les aides au chômage. Enfin, je pense qu'on pourrait y arriver avec ces leviers-là. Et ça serait vraiment universel et tout le monde y aurait le droit, sans condition et sans contrôle aussi. Parce qu'on a toujours aussi cet aspect-là de contrôle. On pense toujours que le chômeur est paresseux et qui ne fait rien pour chercher du travail. Alors, on pourrait aussi sortir de ces considérations-là et vraiment aider les gens à se former en leur donnant plus d'argent et en leur donnant aussi l'occasion d'en gérer de l'argent. Voilà. Et ça permettrait aussi aux femmes d'acquérir un statut autre que celui de mère au foyer, parce que malheureusement, pour certaines d'entre nous, c'est un avenir et c'est aussi ce qui leur donne une place dans la société, d'être maman. Et aussi, je pense qu'il faudrait aussi revoir ce système d'allocation. Plus on a d'enfants, plus on a d'allocations. Parce que les personnes font le lien entre si j'ai mes enfants, est-ce que ça vaut le coup d'aller travailler ? Parce qu'aller travailler pour 1 200 euros quand on a nos allocations et qu'on doit ensuite tout payer parce qu'on a le salaire qui tombe, je pense que la logique est à changer et vraiment revaloriser le travail encore une fois. Et comme tu disais, ce sont les femmes qui s'y collent au niveau du livre. Oui, ce sont les femmes qui s'y collent, en France aussi. Et ce sont des métiers aussi très féminins. Même si elles sont payées, on voit que les nounous, les personnes qui aident les personnes âgées, etc., ce sont toujours des femmes. Et ce sont toujours des femmes mal payées. Et encore une fois, le revenu minimum universel permettrait de les soutenir mieux économiquement. Parce que je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec des salaires aussi bas. Et aussi revaloriser aussi ces métiers-là et plus les professionnaliser, mieux les former. Voilà.
Finalement, c'est un peu la même thèse que ce que développe l'autrice dans son livre. Et puis finalement, lui garantir une plus grande indépendance économique vis-à-vis des hommes, moins de domination et une vie sexuelle plus épanouie. Céline, tu voulais nous parler de quoi, s'il te plaît ?
Je vais vous parler d'un autre thème, mais je vais rebondir quand même sur l'indépendance économique des femmes. Moi, j'y suis très attachée. Gisèle Halimi disait que c'était la première façon de pouvoir faire de l'égalité. En fait, l'indépendance économique, c'est ce qui va faire qu'une femme prennent ces décisions, ne soient pas soumises à rester avec un compagnon qui la violente. Enfin, il y a vraiment cette idée, et moi, j'y suis vraiment profondément attachée. On aura l'occasion, dans les prochains mois, de discuter une loi d'émancipation économique des femmes qui va aussi bien porter sur la place des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises que sur la façon dont, à l'université, on peut aller vers plus d'égalité aussi. Donc, je pense que ces sujets que vous venez d'aborder vont l'être aussi. Alors, je ne sais pas si on parlera de la vie sexuelle dans cette PPL, mais ça sera l'occasion de mettre le doigt sur les inégalités qui persistent. Et encore une fois, la loi ne pourra pas tout, mais en tout cas, de faire avancer le débat, ça sera intéressant. En fait, moi, j'ai envie de vous parler de culture. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il n'y a plus de culture, que voilà, que c'est tout s'est stoppé. Et en fait, non. En fait, aujourd'hui, s'il y a des lieux qui nous sont chers, qui sont fermés, la création continue, la diffusion de la culture continue. Vous avez parlé d'un livre. En fait, le livre, on n'a jamais autant lu que ces derniers mois, en fait, parce que les gens ont eu plus de temps, parce qu'on n'a pas arrêté aussi de parler des libraires. Alors parfois, avec ces polémiques, ils sont ouverts, pas ouverts, mais en fait, les Français ont davantage lu. Donc en fait, la culture, elle ne s'est pas stoppée, elle s'est vécue autrement et elle est en train de se transformer. Et moi, j'y suis profondément attachée sur la manière dont le spectacle vivant, aujourd'hui, il existe encore, on ne peut pas aller le voir, mais il existe encore. Vous avez des répétitions dans les salles de spectacle, vous avez du coup quelque chose à capter. Et là, les captations et le fait de les voir en direct, ça va être intéressant. Aujourd'hui, la création, on a eu une explosion de la découverte du prolongement numérique de ce qui existe dans les spectacles vivants. En fait, il existait déjà une offre numérique, mais dont on s'est précipité dessus parce qu'on était, pour ceux qui aimaient bien les musées, complètement entravés. Eh bien, on a regardé. Et en fait, je pense que si on doit trouver quelque chose de positif à cette crise, c'est aussi une autre façon de vivre notre rapport à la culture. Et moi, je pense que ça va... La création, elle est là encore. Regardez le nombre de films qui sont tournés et qui sont prêts à sortir. C'est même presque trop. Mais en fait, on a continué à faire de la culture. Ce qu'on n'a pas pu faire, c'est le volet social de la culture. Et on adore, c'est se retrouver. Là, forcément, là, on a quelque chose, la distanciation nous en empêche. Mais en fait, on a une créativité de fou et surtout une diffusion par le numérique qu'il faut encourager. Moi, j'étais très, très triste de voir que parfois le spectacle vivant était un peu en disant « Non, mais on ne va pas faire de numérique parce que ça va se substituer. » Non, c'est un prolongement. En fait, ça permet à des personnes qui sont à l'extérieur, ils sont à l'hôpital, ils sont à 500 km de la salle, eh bien, de participer à cette audience-là. Ça n'empêchera pas les gens de revenir et je pense que voilà, ce sera un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, la culture, elle n'est pas morte, elle se vit autrement, mais il y a de la création, il y a de la diffusion.
Merci beaucoup, merci Céline, merci Laurie, merci Emma. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce 21e épisode de Popol. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.